Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité largement consacrée à la situation au Moyen-Orient. Emmanuel Macron a annoncé à Chypre préparer une future mission internationale purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président libanais Joseph Aoun accuse le Hezbollah de vouloir provoquer l'effondrement du Liban pour le compte de l'Iran. Il appelle également à des négociations directes avec Israël pour mettre fin à la guerre. Et il n'y a pas de risque de pénurie imminente d'approvisionnement en pétrole en Europe, selon le porte-parole de la Commission européenne. Nous l'avons évoqué dans les titres, Emmanuel Macron a annoncé à Chypre préparer une future mission internationale purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz et permettre la circulation du pétrole et du gaz dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit au Moyen-Orient. Et sur la situation au Liban, le président libanais Joseph Aoun accuse le Hezbollah de vouloir provoquer l'effondrement du Liban pour le compte de l'Iran. Il appelle à des négociations directes avec Israël pour mettre fin à la guerre. Et Israël a annoncé avoir tué le chef d'une unité du Hezbollah dans le sud du Liban au cours de son offensive menée depuis le 2 mars contre le mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran. Et au 10e jour de la guerre, le conflit s'étend dans toute la région. L'OTAN a intercepté un missile se dirigeant vers la Turquie après une opération similaire la semaine dernière. Le président turc Recep Tayyip Erdogan met en garde l'Iran contre toute action provocatrice. Et plusieurs fortes explosions et des sirènes ont retenti à Doha, la capitale du Qatar. En Iran, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes de grande ampleur et simultanées visant des infrastructures à Téhéran, à Ispahan et dans le sud du pays. L'Iran a accusé les pays européens, dont la France, d'avoir contribué à créer des conditions propices aux attaques américano-israéliennes. Et à Téhéran, des milliers de personnes se sont rassemblées sur une place centrale de la capitale pour prêter allégeance au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Et c'est l'un de nos dossiers du jour à suivre. Et enfin, conséquence de cette guerre, l'Union européenne se veut rassurante. Il n'y a pas de risque de pénurie imminente d'approvisionnement en pétrole en Europe, selon le porte-parole de la Commission européenne. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier sur la situation au Liban. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a averti d'un désastre humanitaire qui se profilait en raison du déplacement massif de la population à la suite des ordres d'évacuation de l'armée israélienne qui mène une campagne de frappe intensive sur le pays suite à une attaque du Hezbollah pro-iranien. Emmanuel Macron a demandé au Hezbollah et à Israël de cesser leurs attaques à Chypre. On l'écoute.
Et au fond, notre objectif est simple. Le Hezbollah doit cesser toute frappe depuis le sol libanais, car il met en danger toutes les Libanaises et tous les Libanais. Israël doit ensuite cesser au plus vite son opération militaire et ses frappes sur le Liban pour permettre à la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban d'être recouvrée et aux forces armées libanaises seules légitimes d'assurer la sécurité de leur sol.
C'était le président français Emmanuel Macron. Et depuis le début des frappes israéliennes lundi dernier, près de 500 000 personnes libanaises ont été déplacées. Pour Pierre-Henri, président de France Fraternité, la crise pourrait mettre encore plus sous pression le système humanitaire libanais. On l'écoute.
Eh bien, la situation est effectivement terrible et je dirais qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle que le Liban, selon des sources officieuses, avant le déclenchement de ces nouvelles frappes par Israël sur la banlieue sud de Beyrouth et sur le sud du Liban, c'était près de 2 millions de réfugiés qui séjournaient au Liban. C'était déjà des centaines de milliers de déplacés. Et donc, cette nouvelle situation ne fait qu'entériner et accentuer une situation humanitaire déjà catastrophique. Je rappelle que le Liban, c'est 6 millions de personnes, qu'il y a une pression énorme qui pèse sur l'ensemble des services collectifs de santé, d'assainissement, de l'eau. La situation présente un peu très bien dégénérée totalement dans une catastrophe totalement incontrôlable.
Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a dit que la France avait débloqué 6 millions d'euros pour les organisations humanitaires au Liban et plus de 20 tonnes de matériel. Quel doit être le rôle de la France dans cette crise ?
Les 6 millions de tonnes de matériel ou les 6 millions d'apports en espèces sont évidemment importants. Et au regard de la catastrophe qui se dessine, c'est peu. Et nous devons dire au gouvernement de M. Netanyahu que pas touche au Liban. Cette politique d'annexion n'est pas possible. Évidemment qu'il y a que Israël a le droit à la sécurité. Mais ce droit à la sécurité ne l'autorise pas à annexer des territoires entiers et à faire basculer un pays dans le chaos.
Et vous venez d'écouter Pierre-Henri, président de France Fraternité, sur la situation au Liban. Dernier dossier du jour, en Iran, Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Khamenei, a été choisi pour succéder à son père, tué dans des frappes israélo-américaines au début de la guerre. Figure influente de la République islamique, longtemps restée dans l'ombre, le nouveau guide suprême s'inscrit dans la continuité du régime. Et vous nous faites son portrait, Marc-Aurel Barrez.
Longue barbe, poivre et sel, lunettes et turban noir, le nouveau guide suprême est un homme dont on ne sait que très peu de choses. Pourtant, à l'âge de 56 ans, il est l'une des personnalités les plus influentes de la République islamique, sans pour autant occuper de fonctions officielles. Son nom, lui, circulait de longue date pour prendre le relais de son père. C'est un homme discret dans les médias comme dans les cérémonies officielles. Alors, sa véritable influence au sein du régime a longtemps été l'objet de spéculations. Certains le présentent comme le véritable dirigeant de la République islamique. Mojtaba Khamenei aurait en effet longtemps et discrètement agi auprès de son père. Il a par exemple été mis en cause par des opposants pour son rôle dans la répression de la population iranienne lors des manifestations d'ampleur qui avaient touché le pays en 2009. Loin d'être un réformateur, il est plutôt considéré comme très proche des conservateurs, notamment en raison de ses liens avec les gardiens de la révolution. D'après le Trésor américain, il aurait travaillé en étroite collaboration avec la force Al-Quds, la branche responsable des opérations extérieures du régime. Selon une enquête de Bloomberg, le nouveau guide suprême est un homme riche. Il le serait devenu notamment en tissant un vaste réseau de sociétés écrans à l'étranger. Alors que sa femme a été tuée dans les mêmes frappes qui ont coûté la vie à son père, cette nomination apparaît comme un défi lancé à l'administration américaine. Donald Trump a d'ailleurs déclaré ce lundi qu'il n'était, je cite, pas content de l'élection du nouveau guide suprême. Il avait prévenu plus tôt qu'un dirigeant choisi sans son accord ne tiendrait pas longtemps. Israël a de son côté averti que tout successeur serait une cible. Quant à lui, le président russe Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré Mojtaba Khamenei de son soutien indéfectible.
Merci Marc-Aurel Barrez pour toutes ces précisions. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.